Mais c'est bon d'être ensemble ici ce matin, puis de louer le Seigneur, de vous voir tous et chacun, et de continuer dans le magnifique évangile de Jean, l'apôtre Jean, un bien-aimé du Seigneur. Et avant de lire le texte, je voudrais introduire, ou faire plutôt un rappel sur notre thème. Nous avons décidé cette année de choisir le thème de connaître Jésus-Christ et de le faire connaître. Et en fait, on a regardé ensemble que connaître Jésus-Christ, c'est par exemple connaître les sept « je suis » que l'on trouve dans l'évangile de Jean, notamment « je suis le pain de vie »,« je suis la lumière du monde », »,« je suis la porte des brebis », »,« je suis le bon berger », »,« je suis la résurrection et la vie », »,« le chemin, la vérité et la vie ». Et ensuite, on a regardé ensemble le faire connaître. Et en fait, l'apôtre Jean dit ceci, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » En fait, dans ce passage ici, Jean explique le but qu'il s'était fixé en écrivant cet évangile, à savoir que les hommes, excusez, j'ai avalé de travers la table du Seigneur, le pain sec, donc je vais me mettre à l'eau maintenant. Espérons que ça va passer. Voilà. Alors en fait, l'apôtre Jean s'était fixé en écrivant cet évangile, à savoir que les hommes puissent méditer et comprendre la signification théologique attachée au miracle de Jésus. En fait, le mot grec pour miracle pourrait être semilla, en grec, pourrait être traduit par signe. Comme je vous ai déjà fait remarquer, dans les quatre évangiles, il se trouve 35 miracles qui sont décrits, et dans l'évangile de Jean, mais l'évangéliste, lui, en a choisi 7. En fait, chacun des 7 miracles, c'est ce que nous sommes en train de regarder maintenant, sont comme des signes afin que nous puissions croire et avoir la foi, être sauvés et croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On a déjà regardé ensemble le changement de l'eau en vin, on a regardé ensemble la guérison du fils de l'officier, la guérison d'un paralytique, la multiplication des pains, le fait que Jésus a marché sur les eaux, et on va regarder ensemble ce matin la guérison de l'aveugle-né qui se trouve au chapitre 9, et plus tard on regardera la résurrection de Lazare. En fait, Jean considère ces miracles comme des signes, mais son but n'est pas, son but n'est pas d'attirer notre attention sur les miracles lui-même, mais sur leur signification et sur celui qui fait les miracles. Alors je vais inviter Daniel à venir ici et à nous lire Jean chapitre 9. Ça va aller ce matin ? Jean chapitre 9. Prenez vos Bibles et tournez en Jean chapitre 9. Merci.
J'attends que tout le monde ait trouvé le passage. Alors, Jean chapitre 9. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Ses voisins, ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Et dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Et il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient été convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes? Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste.
Merci Daniel. Prions s'il vous plaît. Père éternel, merci de bénir ta parole ce matin. Merci de ce que tu as promis qu'elle ne reviendrait pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Et nous nous confions, Seigneur, en toi pour que tu sois glorifié ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur, instruis-nous. Parle, ton serviteur écoute. Amen. Quelle est donc la signification de ce miracle? Comme je vous ai dit plusieurs fois, quand nous lisons l'évangile de Jean, Jésus-Christ se révèle progressivement, après qu'on a vu le prologue, la façon avec laquelle Jean nous décrit Jésus-Christ, sa préexistence, la parole qui est la lumière créatrice, la parole de Dieu qui s'est incarnée. Jésus, au travers de l'évangile de Jean, se révèle progressivement au travers des « Je suis », ses déclarations, ses enseignements, les rencontres personnelles, sa prédication au peuple. et aussi tous ces miracles qu'il fait, qui sont donc répertoriés ici en nombre de 7 dans l'évangile de Jean. Et on voit qu'il y a un drame. Plus on lit l'évangile de Jean, il y a un drame qui s'installe. On voit qu'à chaque fois que Jésus accomplit un miracle, qu'il enseigne, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui croient de plus en plus, la foi des disciples étant fortifiée suite à la révélation progressive de qui est Jésus-Christ, sa personne, sa puissance, ses œuvres manifestées, et puis ceux qui s'enfoncent dans leur incrédulité, qui ne veulent pas croire et qui finalement crucifient Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le désir qu'a l'apôtre Jean, c'est que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que nous croyons que Christ est ce Messie qui devait venir et que nous puissions le croire de tout notre cœur. On va essayer de placer un petit peu tout cela dans le contexte de l'époque et aussi pour essayer de comprendre la signification de ce miracle, on va essayer d'apprendre au travers de ce récit, il y a des personnages essentiels, Jésus-Christ, l'aveugle, né, n'est-ce pas, qui est guéri, les disciples, les parents, les pharisiens. On va essayer de comprendre la signification de ce miracle au travers de ce qu'on va apprendre de ces personnes, de ce tableau. Il y a tout un tableau ici. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus vient de déclarer au chapitre 8 qu'il est la lumière du monde. Et une des façons de le prouver maintenant, c'est qu'il va guérir un aveugle né. Il a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et Jésus a démontré de façon extraordinaire sa puissance en guérissant un homme qui était aveugle de naissance, qui avait perdu espoir de guérir et qui était obligé de mendier pour vivre, pour subsister. En fait, dans l'Ancien Testament, Ésaïe avait prophétisé plusieurs fois que le Messie à venir guérirait les aveugles, rendrait la vue aux aveugles, sortirait les esclaves de leur esclavage et de leurs ténèbres. Le Messie à venir était présenté dans l'Ancien Testament, notamment en Ésaïe, comme le libérateur et le guérisseur également. Alors ici, on a un aveugle né qui guérit d'une certaine façon. Mais savez-vous que ce n'est pas le seul endroit où dans les évangiles où on voit que Jésus a guéri des aveugles. Alors, rapidement, si vous voulez bien, on va faire la liste de façon exhaustive. Matthieu, chapitre 9. On y va ? Allez, Matthieu, chapitre 9 et verset 27. Si vous voulez, je vous lis le texte. « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de Dieu, de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Vous savez, Jésus met une condition à la bénédiction, c'est la foi. « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent, Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache, parce que son heure n'était pas encore venue. » Juste par sa parole, Jésus a guéri ces deux aveugles. Ensuite, si on regarde un petit peu plus loin, au chapitre 12 et au verset 22, on a un autre récit ici. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Ici, ça démontre que la maladie était liée à un lien démoniaque, et Jésus le guérit. On ne sait pas comment, mais sa puissance est telle que le démoniaque est libéré et immédiatement il y a une guérison qui s'ensuit. L'aveugle voit et le muet parle. Ensuite, au chapitre 15 et au verset 30. Chapitre 15, verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Qu'est-ce que j'aime lire cela? Jésus est tout suffisant pour chaque besoin qui lui est présenté. C'est merveilleux. Et chapitre 20, verset 29 à 34, Matthieu chapitre 20, verset 29 à 34, « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici deux aveugles. » Souvent, ils sont deux par deux, semble-t-il, parce qu'ils peuvent s'entraider un petit peu, éventuellement. Deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent : Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort : Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit : Que voulez-vous que je fasse ? Ils lui dirent : Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Vous n'avez jamais eu un moment dans votre vie, un moment où vous avez eu envie de crier au Seigneur, dire : Seigneur, que mes yeux te voient, que mes yeux s'ouvrent, que je puisse comprendre qui tu es. Révèle-toi à moi. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc par sa parole, par sa compassion, ici, juste en les touchant, les aveugles guérissent. C'est merveilleux cela. Avez-vous déjà été touché par la grâce de Jésus-Christ ? Ici, dans ce texte, l'aveugle va être guéri. D'une autre façon, Jésus le teste quelque part, teste sa foi. D'ailleurs, le verbe croire est le mot-clé de l'évangile de Jean. Ce n'est pas la foi, mais c'est le verbe. Verbe d'action, croire. C'est le mot-clé de tout l'évangile de Jean. Et il se retrouve, je pense, quelque chose comme une quarantaine de fois. Ici, Jésus est sorti du temple. Au verset 59 du chapitre 8, il est écrit là-dessus : Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jésus avait un message et il y avait des réactions. Jésus guérissait et il y avait des réactions. Et là, il va guérir l'aveugle-né et il y aura des réactions différentes. Alors, il est à Jérusalem. En fait, il est question ici d'un puits où Jésus demande à celui qui est aveugle-né de s'y rendre. Alors c'est intéressant parce que Jean nous dit, il le mentionne, il dit « siloué », nom qui signifie « envoyé ». Alors quel est ce puits ? Je vais chercher un petit peu. Ici c'est le Jérusalem du temps de Jésus. Vous avez Jésus qui est au temple ici. Il descend, il sort du temple, on ne sait pas où il rencontre l'aveugle-né. Et ici, vous avez, ça c'est l'enceinte connu de Jérusalem à l'époque de Jésus-Christ. Et ici, c'est le réservoir, le puits de Siloé. Or, il se trouve que ce réservoir est alimenté par une source qu'on appelle la source de Guion. Et c'est de là qu'a été creusé, du temps d'Ézéchias, un tunnel pour alimenter bien, un lieu d'eau qui se trouve au réservoir de Siloé. Alors, il y a des archéologues qui ont trouvé en 1900 notamment, il y a cette photo, ce puits, ce réservoir de Siloé, dans lequel était déversée l'eau. Évidemment, c'est une façon notamment pour les gens de Jérusalem de se protéger en temps, en cas d'invasion et d'ennemis, n'est-ce pas, notamment les Assyriens, d'avoir cette alimentation en eau, parce que vous savez que c'est essentiel, évidemment, pour vivre, notamment lors d'un siège. Alors, le tunnel faisait 516 mètres, et l'eau coulait directement de cette source. Donc l'eau était comme dans ce réservoir, on l'appelait réservoir de l'envoyé, parce que c'était comme recevant l'eau envoyée de cette source. Je pense que Jean fait ici un jeu de mots. Voilà à l'heure actuelle en tout cas le puits maintenant qu'on peut regarder avec ce tunnel, n'est-ce pas, qui a été découvert par des archéologues, donc depuis la source jusqu'au réservoir. On va arrêter là pour les images. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean ici dit, c'est le réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». C'est intéressant qu'il emploie cela, parce que Jean ne cesse de dire dans l'évangile de Jean que Jésus est l'envoyé. Il envoie Jésus, un homme malade, un puits qui est aussi synonyme de la bénédiction. Je vous explique cela. C'est que du temps de la fête des tabernacles, je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est dans l'Ancien Testament, les eaux de Siloé étaient utilisées comme symbole pour symboliser les bénédictions de Dieu. Et c'est justement un temps qui se trouve être juste le temps après la fête des tabernacles, qu'on appelle aussi la fête des moissons, on va y revenir. Mais retenez cela, c'est Jésus l'envoyé en fait. C'est Jésus qui envoie cet homme, être guéri au réservoir de Siloé, mais l'envoyé, c'est le Messie. Cette petite note que met Jean ici, ça veut dire, c'est l'envoyé par excellence, c'est l'envoyé de Dieu. Il envoie cet homme guérir au réservoir de l'envoyé, mais c'est Jésus vraiment qui est l'envoyé de Dieu. C'est lui qui est le Messie. Peut-être ça n'apparaît pas trop, mais c'est un jeu de mots que fait Jean ici dans ce texte. Quand est-ce le miracle a-t-il eu lieu? Vous l'avez retenu certainement après la lecture que nous a fait Daniel, chapitre 9. C'est le jour du sabbat. Qu'est-ce que c'est le jour de sabbat? Le jour de sabbat, c'est la cessation de travail. Pas mal ça, non? Le repos. C'est bien le repos. C'est le jour que Dieu a institué. Il est dit qu'après avoir créé les cieux et la terre, il s'est reposé le septième jour de toute son œuvre. Il s'est reposé. C'est pas tellement qu'il était fatigué, Dieu. Il est juste entré dans le repos de la satisfaction pour contempler son œuvre. C'est dans ce sens-là qu'il est question de repos pour Dieu. Et donc, ce repos a été institué aussi pour Israël comme étant le septième jour consacré à l'Éternel qui devait être observé. Alors, je vous lis une petite note ici. Le Décalogue défendait de façon générale de faire aucun ouvrage ce jour-là. La loi spécifiait qu'on ne doit pas allumer de feu dans les maisons, car les repas sont préparés la veille. Et vous vous souvenez, quand on ramassait la manne, on n'avait pas le droit de ramasser la manne ce jour-là, alors qu'elle périssait si on la gardait. Mais le jour du sabbat, cette manne, miraculeusement, était conservée et on pouvait la manger. En fait, c'était un jour mis à part, consacré à l'Éternel. Il y avait des rites, il y avait des sacrifices, tout simplement pour dire que c'était quelque chose qui avait été institué par Dieu. Mais vous savez ce qui est terrible, c'est que Dieu institue des choses et les hommes déforment l'esprit dans lequel les choses sont instituées. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus a dit « je suis maître du sabbat ». Après l'exil, le sabbat était devenu, l'observation du sabbat faisait l'objet d'un légalisme extrême. Et dans cette période, alors les Juifs ont fixé toutes sortes de détails dans la manière dont le sabbat devait être observé, et c'est ce légalisme que Jésus condamna. Au point, et vous l'avez écouté tout à l'heure, qu'on ne croit pas que Jésus, le Messie, alors qu'il vient de guérir, que la preuve est évidente, parce que c'est un jour de sabbat. On n'a pas le droit de faire la boule au jour de sabbat. C'est fou. Comment les hommes, au nom de Dieu, transforment la vérité en mensonge et mettent un joug sur les autres. Nous qui connaissons le Seigneur, soyons sages dans la façon d'annoncer l'Évangile. N'amenons pas des jougs envers les autres, mais amenons la liberté qui est en Christ. Ben, c'est cela, à la miséricorde à laquelle Jésus prend plaisir. La fête des tabernacles, il y avait plusieurs fêtes en Israël. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je fais un test. Qui connaît Lévitique 23? Pourtant, lisez-le, c'est de toute beauté. Vous avez les sept fêtes de l'Ancien Testament qui correspondent en fait aux sept fêtes du Nouveau Testament. La fête des tabernacles s'appelle tabernacle parce que quand les Juifs faisaient cette fête-là, ils vivaient sous des tentes. Et donc, on l'a appelée la fête des tabernacles. C'est aussi la fête des moissons. C'était la fête de la bénédiction. En fait, Jésus présent sur cette terre était une fête permanente pour Israël et pourtant ils ne le comprenaient pas. Nous avons d'un côté Jésus la lumière du monde, il vient le déclarer, Jésus qui tabernacle dans ce monde, qui demeure, qui est présent, Dieu fait homme, et les Juifs d'un côté qui suivent le sabbat dans une espèce d'institution que eux-mêmes finalement ont, on va dire, déformée et qui ne reconnaissent pas Dieu présent parmi eux. Et elle habitait parmi elles, ils ne l'ont pas reçue, ils l'ont rejetée et méprisée. Il y a un verset, je ne sais pas quand, bon, vous venez de l'écouter peut-être, mais vous lisez l'évangile de Jean et le chapitre 9, mais je trouve qu'il y a une déclaration, moi qui j'ai envie de souligner dans ma Bible, parce que je trouve que c'est une déclaration de cet homme qui est tellement forte, et j'en ferai le verset clé, et je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. J'aimerais vous dire une chose, c'est qu'il n'est pas encore sauvé, cet homme-là. Mais la lumière qu'il a reçue de Jésus est suffisante pour lui pour déclarer et prendre position en faveur de la vérité révélée. Des fois, il y a une progression dans le salut d'une personne jusqu'à ce qu'il soit face à face avec Jésus. Crois-tu que je suis le Fils de Dieu? Y crois-tu? Veux-tu y croire? Et là, c'est le salut. Mais il y a des vérités que Dieu nous permet d'avoir. Je pense à ce monde qui dit non, Dieu n'existe pas. Pourtant, la Bible dit que les hommes sont inexcusables parce que la vérité leur a été révélée par la création du monde et de la terre, et que devant ces perfections invisibles, l'homme devrait se courber et dire « Oui, Dieu, tu es le créateur de la terre. » Moi, je suis triste quand j'entends quelqu'un dire « Non, Dieu n'existe pas. » Parce qu'il est en train de dire un mensonge. Il est en train de dire autre chose que Dieu lui met sous les yeux. Il est en train de faire Dieu menteur, et surtout il se ment à lui-même. L'incrédulité est un péché, un aveuglement terrible, n'est-ce pas? Et on dirait que quand les hommes commencent à préférer les ténèbres à la lumière et tournent le dos à la lumière, ils s'enfoncent dans les ténèbres. Et un jour, on peut faire face à quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe, qui n'a pas d'éternité, qui finalement, la vie s'arrête à la mort, alors qu'on sait que nous, tout commence à ce moment-là. Une incrédulité due au rejet de la vérité. Dieu juge ceux qui rejettent la vérité. Mais cet homme-là, alors qu'on voulait lui faire... en quelque sorte renier cette expérience qu'il avait eue de guérison et renier de voir en Jésus celui qu'il avait guéri, il dit une chose, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Moi j'aime cette déclaration puissante. Et quand Dieu nous bénit, quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, ben, osons dire, je sais une chose, que j'étais aveugle, maintenant je vois. D'autant plus lorsqu'on est sauvé, ayons cette assurance, parce que ça donne la gloire à Dieu. Alors, si vous me permettez, j'aimerais qu'on regarde ensemble un petit peu le texte, et on va le diviser comme suit, la guérison de l'aveugle-né, du verset 1 à 7, puis ensuite, la réaction suite au miracle. Il y a toujours des réactions au miracle. Alors, évidemment, il y a la réaction des voisins de l'aveugle-né, des pharisiens, des parents de l'aveugle-né, puis de lui-même. Il a un témoignage ici progressif de foi qu'on trouve dans le texte, et puis finalement, le résultat, c'est le salut de l'aveugle-né, et puis une déclaration de Jésus au sujet des pharisiens. Les pharisiens méprisent l'expérience véritable de l'aveugle-né et sa foi. Aux yeux des hommes, il est comme une balayure de semence, dirait l'apôtre Paul. Mais quand il rencontre Jésus, Jésus, suite à sa foi, l'élève, et finalement, il juge ceux qui sont dans les ténèbres et qui ne veulent pas voir. Avez-vous déjà été éclairé par Dieu? Êtes-vous dans la lumière de Christ? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? Je voudrais qu'on regarde ensemble un petit peu tout d'abord le profil de cet aveugle-né, qu'on se mette à sa place. Il est né aveugle. Or, en ce temps-là, en Palestine, il y avait beaucoup d'aveugles. Des aveugles nés de naissance, mais aussi des aveugles qui sont devenus aveugles pour différentes raisons. Mais qu'est-ce que croyaient les disciples? Un peu comme les amis de Job. Tu souffres, tu es malade, tu as péché. C'est ce qu'ils leur disent. Qui a péché pour qu'il soit aveugle? C'est lui ou ses parents? Attendez, un aveugle naît. Il naît aveugle. Il a péché quand alors? Dans le sein de sa mère? Ou alors c'est un jugement de Dieu en pensant que plus tard qu'il aurait été né, il aurait péché, donc Dieu le juge dès le sein de sa mère en le rendant aveugle. Ou alors c'est dû à ses parents, au péché de ses parents. Voyez-vous, il y a une grande question ici, une énigme que se posent les disciples. Comment se fait-il que cet homme soit né aveugle? C'est la question de la souffrance, c'est la question des grands pourquoi que l'on a dans la vie, en pensant à Job, n'est-ce pas? Pourquoi Seigneur? Et Jésus a une réponse ici. Il dit, il faut que je fasse, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc Jésus n'est pas en train de dire, cet homme, il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas un pécheur, parce qu'on est tous pécheurs, mais il est en train de dire qu'il n'est pas aveugle à cause de son péché particulier. Voyez-vous comment parfois le mensonge s'installe? Et que croyez-vous qu'il croyait, cet homme-là? Pensons-y. Ben, les pharisiens lui disaient ça, ses parents lui disaient ça, la culture lui disait ça. Il ne comprenait pas, mais il était aveugle. Je dirais que dans nos vies aussi, avant de connaître le Seigneur, il y a le péché dans nos vies. On ne comprend pas très bien. On en subit les conséquences, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait qu'il y a un malaise, quelque chose qui ne va pas, qui a besoin d'être réglé. Et on a besoin d'une lumière en nous. Et c'est vrai qu'on est né dans le péché. C'est vrai que de naissance, on est pécheur à cause d'Adam et Ève. On n'a pas voulu naître pécheur. Et pourtant, on est pécheur. Et on a besoin de délivrance. Cet homme vivait seul avec sa maladie. Je pense qu'il y avait un certain désespoir. On ne connaît pas l'âge de cet homme, mais il était obligé de mendier. Il était donc certainement méprisé par les autres. Et puis son handicap était lié au péché. Et une chose que je trouve extraordinaire ici, qui montre la grâce de Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui est allé chercher Jésus-Christ. Dans les autres passages, on a vu notamment les deux aveugles qui criaient, puis on les empêchait de crier. Vous savez, parfois le monde aujourd'hui empêche ceux qui cherchent Dieu de trouver Dieu. C'est terrible cela. On empêchait ces deux aveugles de rencontrer Jésus. Mais ils ont crié tellement fort, puis ils ont été guéris. Jésus avait une réputation extraordinaire de guérisseur. Il guérissait des foules, imaginez. Jésus faisait la une de tous les journaux de Jérusalem à l'époque. Enfin, vous comprenez. L'idée, c'est que Jésus était connu. Et ces aveugles ont cherché Jésus. Mais cet aveugle-né, il est là. Il ne cherche pas Jésus. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Parfois, nous cherchons Jésus. Enfin, la Bible dit, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Nul ne cherche Dieu. Mais la grâce de Dieu vient vers nous. Et Jésus a approché cet homme. Il connaissait son besoin. Et il savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait guérir cet homme-là, parce qu'il a dit « Je suis la lumière du monde ». Il voulait illustrer la guérison de cet homme pour le faire passer des ténèbres à la lumière, de la cécité spirituelle à la révélation de qui il est Jésus-Christ. Alors ce n'est pas lui qui va vers Jésus, mais moi je trouve dans cet homme une autre grâce, c'est que Jésus lui met de la boue, de la salive, et puis lui dit « Va !» se laver au réservoir de Siloé, qui était, dans la tête des pharisiens, un endroit de bénédiction. C'était la fête des tabernacles, il faut se souvenir de cela. Mais cet homme n'a pas discuté. Vous n'avez jamais parlé avec des gens, puis discutent tout le temps. Dieu leur donne une solution, puis ils discutent, ils argumentent. Ils veulent être Dieu quelque part. Ils veulent décider comment les choses devraient se passer, comment ils peuvent contrôler leur situation. Et Jésus lui dit, va te laver au puits de Siloé. Et il y va. Moi, je trouve que cet homme-là, il a la foi. Parce que tout en marchant, en allant au puits de Siloé, il se dit, tiens, il m'a mis de la boue, de la salive. Enfin, il n'a rien vu. Il n'a pas vu l'homme. Il a entendu les paroles de Jésus. Certainement, son oreille a été très sensible à la voix de Jésus. Mais il ne l'a pas vu. Il n'a jamais vu Jésus. Mais il croit en Jésus. Et Jésus lui met cette boue et cette salive, puis il s'en va. Certainement, il a déjà entendu parler de Jésus, mais il s'en va, il a la foi. Il se lave, puis il est guéri. Sur quelle base? Sur la base de la parole de Dieu. Les choses bougent dans notre vie. Les ténèbres se dissipent lorsque nous avons confiance en la parole de Dieu, en la parole de Jésus. Lorsque nous avons mis notre confiance dans la parole de Christ, qui est une parole d'amour, une parole de miséricorde. Et puis, il a tout un témoignage. Alors, les voisins, j'ai lu le livre de Louis Pelzer. Vous l'avez déjà lu, peut-être vous aussi. Comment cet homme-là a été malade, c'est 37 ans, hein, allongé dans son lit, malade. Il est venu s'y témoigner, comment il vivait, le pauvre, avec une maladie terrible, musculaire. Il était complètement recoquevrillé, on le faisait manger. Une bête, il nous a dit. J'étais devenu une bête dans mon lit. Puis il s'est converti. Il n'a pas demandé la guérison au Seigneur, mais Dieu l'a guéri. Un jour, il s'est levé, il a commencé à mettre le pied à côté de son lit, de commencer à marcher. Il est allé même faire une petite toilette. Et ça, il n'a pas dit à sa femme, mais il craignait tellement que ce n'était pas la réalité. Puis finalement, oui, il a été guéri. Donc, gloire à Dieu. Amen. Hein? Puis il est allé voir son voisin. Juste à côté, il a frappé à la porte et il a dit, voilà, c'est moi. Qui vous êtes, monsieur? Ben, c'est moi, c'est votre voisin. Vous savez, j'étais guéri, Dieu m'a guéri. Oh, je ne vous crois pas, c'est pas vous. C'est terrible cela. C'est terrible. Mais Louis Pelzer, son voisin, a cru que Dieu l'avait guéri. On est quand l'incrédulité? Vous avez sous les yeux, puis vous ne croyez pas. Mais c'est exactement les voisins. Les voisins, ils le connaissaient, les voisins. Ils le voyaient constamment. Il dit, ça y est, je suis guéri, je vois. Je suis aveugle, je vois. Comment ça s'est passé? Mais lui, il raconte les faits. Puis il dit, Jésus, je ne sais pas, il a disparu. Moi, je suis bien ignorant, mais c'est Jésus qui m'a guéri. Il ne le croit pas. Puis il l'amène vers les pharisiens. Il l'amène vers les pharisiens. Et là, il est obligé encore. Il est tout heureux de raconter son histoire. Attendez, il voit tout. Avant, il l'entendait, avec certainement des craintes et tout. Maintenant, il voit tout. C'est un miracle. Hein? C'est un miracle hein, de voir. Il voit tout. Il comprend tout. Et puis, les pharisiens, eh bien, ils ne croient pas. C'est terrible, ça. Ils ne croient pas parce qu'il a été guéri le jour de sabbat. Moi, je pense que c'est un vrai prétexte, cela. Hein? L'incrédulité, préférer le dogme à la réalité. Préférer la forme à l'esprit, la lettre à l'esprit. C'est terrible comment les religieux, dans l'histoire de l'Église, ont parfois conduit des gens vers les ténèbres, étant eux-mêmes aveugles, conducteurs d'aveugles. C'est terrible cela. La religion tue, alors que Jésus-Christ donne la vie, la vraie vie, et donne la vue. Alors les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle, qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Vous savez, quand on ne veut pas croire, on croit que le cœur peut s'endurcir. Alors les parents, eh bien, ce qui est étonnant, c'est que eux, par contre, ils ont peur d'être rejetés à la synagogue. Et là, c'était terrible pour un juif d'être rejeté à la synagogue, d'être mis à part, mis au banc, quelque sorte. Eh bien, interrogez-les lui-même, il a de l'âge, il va pouvoir se défendre. Eux, ça représente, moi je trouve, ces gens-là, représente la faiblesse du peuple d'Israël à ce moment-là. Ils représentent ceux qui peut-être veulent croire, mais bon, s'engager. Ils ne prennent pas position. C'est terrible ça, alors que Jésus vient de garer leur fils. On se demande à quel point ses parents aimaient leur enfant. En tout cas, ils avaient une crainte des religieux telle qu'ils n'étaient pas capables de prendre position. Et cet homme-là fait l'objet finalement d'une enquête des pharisiens. Ça a commencé quand les voisins l'ont emmené auprès des pharisiens. Puis maintenant, on amène ses parents. Puis l'enquête continue. C'est à nouveau à partir du verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » En disant « Donne gloire à Dieu », ça voulait dire « Viens de notre côté, renie ce que tu as vécu et finalement méprise ce Jésus qui t'a guéri. » Et là, on voit un homme qui prend position. Il n'est pas encore sauvé, mais il est guéri. Écoutez, la joie d'être guéri, la reconnaissance est telle qu'il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Et ici, il prend position. Et même, je dirais, qu'il discerne, par son simple bon sens, la mauvaise foi de ces pharisiens. Il les provoque. Et finalement, cet homme-là, qui a rencontré Jésus, qui ne connaissait pas juste le nom, qui est guéri, qui a eu foi d'aller jusqu'au réservoir de Siloé, il croit que non seulement Jésus est celui qui l'a guéri, qu'il est le prophète, et maintenant il croit qu'il est l'envoyé de Dieu. Et il commence à enseigner, ça c'est paradoxal, il commence à enseigner les chefs religieux. Vous savez, la vraie spiritualité, ça tranche et puis ça a une autorité. Un jeune croyant qui vient d'accepter le Seigneur, a une vérité dans son cœur qui est toute une puissance de Dieu et du Saint-Esprit et qui peut aller enseigner des gens soi-disant hein, religieux qui finalement n'ont jamais reçu la lumière. Pensez à Nicodème qui était venu voir Jésus de nuit et qui ne connaissait pas le Seigneur. Et puis, la deuxième rencontre de cet aveugle-né qui guérit maintenant, c'est encore Jésus qui le rencontre. Ce n'est pas lui qui cherche Jésus. Il est persécuté, il est chassé de la présence des pharisiens et donc de la synagogue avec toutes les conséquences que ça a. Et puis il rencontre Jésus. En fait, il est écrit, verset 35, « Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu ?» Personnellement, je crois que quand quelqu'un est éclairé et qui va vers la lumière que Dieu lui révèle, ben Dieu se rapproche de lui. Mais quelqu'un qui tourne la lumière à la révélation de Dieu ou partielle, alors il s'endurcit. Et c'est ce qui se passe avec ces pharisiens. En fait, c'est Jésus qui le rencontre. Et de l'ignorance, il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Voilà, la foi grandit en lui, c'est merveilleux. Et Jésus lui dit, tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Il l'adore. Donc il passe de l'ignorance au salut et à l'adoration. D'ailleurs, quand on connaît le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on l'adore. Alors, le résultat de tout ça, de la foi de l'aveugle, c'est qu'il est guéri, il prend position pour la vérité, il est persécuté, il avance dans la foi, il trouve le Seigneur, il est passé de l'ignorance à la connaissance du Fils de Dieu. C'est une illustration, évidemment, du passage de la nouvelle essence, du passage des ténèbres à la lumière. Il reconnaît Jésus, l'homme, le Fils de Dieu et son Sauveur. Les pharisiens, pour être bref peut-être un instant, mais les pharisiens, on voit qu'ils sont tellement attachés à leur forme, à leur religion, qu'ils ne voient pas que Jésus est vraiment le Messie. Ils refusent de croire, ils s'endurcissent. Et pourtant, la Bible dit en Matthieu 6, 23, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Ils refusent de croire, j'ai marqué, par orgueil. Ils préfèrent croire en leurs lois et traditions. S'il est un principe que j'aimerais annoncer maintenant, s'il est quelque chose que le Christ déteste, c'est le légalisme, c'est la propre justice, c'est la pitié, la piété de façade, le formalisme rigide et intransigeant qui préfère la lettre à l'esprit et ne comprend rien à l'essence même de la loi. S'il est quelque chose, c'est l'hypocrisie qui juge, condamne sous des dehors de piété et avec de soi-disant arguments bibliques. Gardons-nous de juger sur l'apparence. Vous savez, à chaque fois qu'on regarde un passage en Jean au sujet du miracle, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on apprend de Jésus ? On veut le connaître, c'est notre thème, pour mieux le faire connaître. Qu'est-ce qu'on apprend de Jésus dans ce texte ici ? J'aimerais dire premièrement que Jésus est auprès de ceux qui souffrent. Nous n'avons pas toujours les explications envers ceux qui souffrent. Nous ne pouvons peut-être pas même les consoler, peut-être même pas les guérir. En tout cas, Jésus a la solution. Certainement, il peut guérir, mais une chose est certaine, qu'il est auprès de ceux qui souffrent. Puis il a pris le temps de répondre à la question des disciples. Jésus désire répondre à nos questions. Et puis il accomplit les œuvres de celui qui l'a envoyé. Il a démontré qu'il est vraiment le Fils de Dieu, la lumière du monde. Il a la puissance de guérir. Et puis quand Jésus guérit, ou que Jésus fait un miracle, il crée une division. Il est écrit, il eut division parmi eux, ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui ?» Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Et plus haut, il est écrit, « Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Jésus divise dans une même famille. Jésus divise. Il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Jésus divise le monde. Il y a ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Jésus provoque les pharisiens. Ne croyez-vous pas qu'il l'a fait intentionnellement de guérir cet aveugle-né le jour du sabbat ? Je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Et puis finalement, il guérit. Il sauve. Il prend soin de celui qui est rejeté à cause de la persécution de sa foi. Et puis il se laisse adorer. Puis finalement, il déclare un jugement. Et nous allons terminer avec cela. Si vous voulez bien reprendre vos Bibles en Jean chapitre 9 et verset 35. Et on termine avec cela. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Et voilà une nouvelle naissance. Quelqu'un qui rentre dans le royaume de Dieu, qui va passer l'éternité avec son roi, Jésus-Christ. Puis Jésus dit, on voit la foi progressive de cet homme jusqu'à découvrir Jésus comme sauveur, Seigneur, et qui l'amène à l'adorer. Mais Jésus n'a pas terminé. Voilà ce qu'il dit. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et entendu ses paroles lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Quand Jésus dit « Je suis venu dans le monde pour un jugement », il voulait dire qu'il était venu pour prononcer des jugements contre des impies comme un juge. Et j'aimerais dire ceci, vaut mieux se laisser juger sur terre et d'être condamné et de plaider coupable pour être pardonné que de résister et un jour se trouver coupable dans l'éternité au jugement éternel. Vaut mieux se laisser juger sur terre que d'attendre, n'est-ce pas? Vous avez jamais entendu des gens qui disent « Vous verrez, moi, quand je mourrai, si Dieu existe, je vais lui dire deux mots. » Moi, je tremble quand j'entends ça parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu et à qui ils vont faire face. Dieu est juge. Afin que ceux qui ne voient pas, voient. Laissez-moi vous l'expliquer en ces termes. Il s'agit de ceux qui reconnaissent leur désespoir et leur incapacité et placent leur confiance en Jésus pour le salut. Ceux qui disent qu'ils voient tout le temps par présomption, par suffisance, par orgueil, ils ne peuvent pas être secourus. Je me souviens d'un ami qui est aujourd'hui médecin, qui était en train de se baigner dans une plage qu'il connaissait très bien à Biarritz. Et puis il nageait, et juste à un moment, il a réalisé qu'il était pris par une lame de fond. Alors il luttait en nageant pour essayer de résister et revenir sur la berge. Puis il a compris à un moment donné qu'il s'épuisait et qu'il allait se noyer. Et alors il a crié, et justement il y avait un nageur qui est venu le secouer, mais il a compris que s'il ne criait pas, il allait couler. Et parfois le salut vient quand on comprend qu'on ne voit pas, que justement on est aveugle, qu'on a besoin de Dieu et de son secours. Et c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Mais si on est présomptueux, orgueilleux, si mon ami n'avait pas appelé secours, ben il se serait noyé. C'est incroyable comment l'orgueil humain peut amener une telle résistance de cœur pour refuser le salut que Jésus offre et qui pourtant est gratuit. Êtes-vous sauvé ce matin ? Êtes-vous certain que votre nom est écrit dans le livre de la vie, que votre cécité spirituelle a été enlevée par la lumière du monde, Jésus-Christ? Il dit que ceux qui voient deviennent aveugles. Ce sont ceux dont la suffisance et l'orgueil les empêchent de voir les merveilles que Jésus accomplit. Ils ne les condamnent pas en les rendant aveugles. Et la Bible dit que parce qu'ils veulent être aveugles, bien, quelque part, le prince de ce siècle les aveugle. Dieu veut éclairer les hommes. La Bible dit que Jésus, en venant dans le monde, a éclairé tous les hommes. Il y a une part de responsabilité chez l'homme de ne pas croire, de ne pas vouloir voir. Et c'est lié à sa suffisance, à son orgueil, à son individualisme et son contrôle de sa propre volonté. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Mais si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons aussi votre péché demeure. » La condamnation que fait Jésus envers ces gens-là, vous êtes condamnés parce que vous croyez voir. Donc voyez-vous, le salut vient de la foi, mais la foi c'est proche de l'humilité, c'est reconnaître son besoin. C'est dire « Oui Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. » La Bible dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Si nous avons, par la grâce de Dieu, goûté que le Seigneur est bon, alors réjouissons-nous. Si vous connaissez quelqu'un qui ne connaît pas la lumière, mais plaidez qu'il aille à la lumière. C'est tellement beau de voir pour la première fois de sa vie les choses comme Dieu les voit. Et nous qui connaissons la lumière, j'aimerais vous laisser ce verset. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le psalmiste dit, par ta lumière, je vois ta lumière. Il y a des ténèbres dans nos vies, oh, certainement. Mais nous pouvons aller à la lumière. Et puis nous pouvons proclamer cette lumière, nous pouvons la faire valoir. Hein? Nous sommes la lumière du monde, de celle de la terre. Si ce matin, Dieu vous a guéri de votre cécité spirituelle, ne cessez pas de le louer et apporter la lumière dans des cœurs qui encore ne connaissent pas la lumière. C'est notre vocation en tant que croyants. Prions s'il vous plaît. Notre Père Céleste, merci de ce témoignage de cet homme que tu as guéri, qui a pris position pour toi jusqu'à une pleine rencontre avec toi. Et c'est pour nous qui te connaissons ce qui s'est passé. Tu nous as éclairés, tu nous as tirés à toi et nous avons cru et nous sommes sauvés. Quelle grâce, Seigneur, nous te te connaître. Gloire à ton nom. S'il y avait quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, qui puisse prier dans son cœur, « Ô Seigneur, toi qui es la lumière du monde, éclaire-moi, rends-moi la vue, que je puisse voir, que je puisse te connaître. » Au nom de Christ.